Au Capi Service, du lundi au vendredi, de 9h à 11h, heure de Kinshasa, avec Jody Daniel Kachama.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Okapi Service, le magazine de la vie au quotidien. C'est un plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui pour vous servir. Comment prévenir la dégradation rapide des infrastructures de base? On en parle avec l'ingénieur Michel Ouyumbu, président de la Corporation des ingénieurs BTP de la RDC. Michel Ouyumbu, bonjour.
Bonjour, monsieur Jody.
Bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien. Des questions et préoccupations, appelez au 081 890 63 94. Écrivez-nous également à service@radiocapi.net. À partir des 11h05, heure de Kinshasa, on va parler de la contribution de la société civile dans le processus électoral. Comment la société civile peut-elle contribuer efficacement au processus électoral? On en parle à partir de 11h05, heure de Kinshasa. Pour participer à cette émission, le standard est déjà ouvert. Composez le 081 890 63 94. Écrivez-nous à service@radiocapi.net. Réagissez également sur la page Facebook de l'émission Okapi Service. Polydor Bansunga à la mise en onde, Tati Mapoukou assure la coordination et la réalisation de cette émission qui est présente Jody Daniel Kachama. Bienvenue à tous.
Chers finalistes, candidat à l'examen d'État édition 2020-2021, bravo! Vous êtes à quelques pas des épreuves tant attendues. Si vous réalisez 85% ou plus, vous serez éligible à la bourse Excellencia de la Fondation Denise Nyakeru-Tshisekedi, une bourse d'études supérieures en RDC et à l'étranger. Visez l'excellence et maximisez vos chances de bénéficier de cette opportunité. Bon courage et bonne application.
Ceci est un message de la Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi.
Encore une fois, bienvenue dans Okapi Service, le magazine de la vie au quotidien. En RDC, de nombreuses infrastructures ne résistent pas à l'usure du temps. Elles s'abîment, ces infrastructures s'abîment très vite et nécessitent d'autres financements du gouvernement ou des partenaires pour leur réhabilitation. Il s'agit notamment des routes, les ponts, les bus, les caniveaux, etc. Alors, certains observateurs avancent plusieurs raisons pour expliquer cela. On parle de la mauvaise exécution des travaux, d'autre part de l'amortissement, le vieillissement, les problèmes liés à l'environnement et surtout le manque d'entretien. Alors, que faire pour prévenir la dégradation rapide des ouvrages d'intérêt public? On en parle aujourd'hui avec notre invité, Michel Ouyumbu. Il est président de la Corporation des ingénieurs BTP de la RDC. Ingénieur Michel, encore une fois, bonjour.
Bonjour, merci, Jody.
Alors, dites-nous, pourquoi les ouvrages, les routes surtout en RDC, se dégradent si vite?
Merci beaucoup, merci, Jody, pour l'invitation. Merci encore une fois de plus à toute l'équipe de la Radio de la Paix et la Radio Okapi. Et le thème que nous abordons aujourd'hui, c'est un thème très capital, très important, parce qu'il s'agit de questions des millions de dollars qui sont engloutis, l'argent des contribuables congolais qui sont engloutis, et nous devons leur donner des explications. Et nous, en tant que Corporation nationale des ingénieurs BTP, dans notre mission, nous devons sensibiliser aussi bien les décideurs politiques que les différents acteurs pour que nous puissions parvenir à construire des infrastructures de qualité.
Alors, en passant, ingénieur BTP veut dire ingénieur en bâtiment travaux publics.
Hein. Bien sûr, bâtiment et travaux publics.
Travaux publics, d'accord.
Les bâtisseurs de la République.
Ok.
Alors, J'étais en train de dire qu'il s'agit des questions de millions de dollars. On ne construit pas une route avec 2000 dollars. La route coûte 2 millions. Et l'argent qui est dépensé pour des routes, nous devons nous assurer, nous, en tant que bénéficiaires, même aussi bien l'État en tant que bailleur de fonds ou les autres partenaires techniques et financiers du gouvernement, que les routes qui sont exécutées les sont de la bonne manière. Donc il s'agit de la question de la qualité de ces routes. Et la qualité de ces routes, évidemment, doit être analysée sur les différentes phases du projet routier. Je prends le cas d'une route, par exemple. Cela est valable pour l'ensemble d'autres infrastructures. Au niveau même de la conception, comment les études ont été élaborées? Quelles sont les solutions qui ont été proposées? Sont-elles le meilleur possible? Le meilleur en ce qui concerne l'efficacité technique, mais le meilleur en ce qui concerne aussi l'enveloppe et le moyen financier qui doit être mis en œuvre. Du point de vue conception, on devait mettre un mécanisme pour valider le projet par rapport à un processus de qualité. La deuxième phase, évidemment, c'est la phase de mise en œuvre ou d'exécution. Au niveau de l'exécution du projet, on doit s'assurer que les solutions qui ont été proposées, les précisions techniques qui ont été recommandées sont respectées à la lettre. Et au niveau aussi de l'exploitation, il va falloir qu'il y ait un agenda clair qui doit définir les interventions d'entretien qui doivent être exécutées de manière à pérenniser l'ouvrage, pour que nous ayons la pérennité de l'ouvrage. Donc, vous comprenez, monsieur Jody, que c'est un processus complexe, et dans ce processus complexe qui concerne l'ensemble des phases du projet d'infrastructure, la moindre faille dans une étape ou dans une phase...
C'est fini, ça affecte le reste.
Peut entraîner le reste. Mmh. Vous pouvez exécuter une route dans les meilleures prescriptions techniques. Mais si au niveau de la conception, les dimensions qui ont été données ont été des dimensions dont qui ne sont pas des dimensions qui peuvent supporter les trafics, parce qu'il faut signaler par là que l'un des éléments capitaux pour le dimensionnement d'une route, c'est le trafic. Si le trafic a été pris en compte, a été faible, et que le trafic que l'on observe lors de l'exploitation est très élevé, cette route va se dégrader très rapidement, même si l'exécution...
À cause du trafic.
Évidemment, parce que le trafic qui a été pris en compte était faible. Et cela, nous l'observons aussi, généralement, quand tu as des routes qui sont des routes principales qui sont fermées, pendant, par exemple, les travaux sur les routes principales, et le trafic est déversé sur certaines routes secondaires, alors que ces routes secondaires-là ont été dimensionnées avec un trafic faible. Quand on reporte ce grand trafic sur ces routes-là, ces routes secondaires se dégradent rapidement. Donc, il y a un plan de qualité qu'on devait mettre en œuvre pour contrôler les différentes phases.
Alors, ingénieur et Michel, si je comprends bien, la raison qui fait que à la base de la dégradation rapide des routes, c'est la mauvaise qualité des travaux. Est-ce qu'on peut les dire ainsi?
Non, je n'ai pas dit la mauvaise qualité des travaux. Oui. Il faut que nous
identifions d'abord les problèmes, les causes de cette dégradation rapide de nos infrastructures.
J'ai commencé par la conception de cette route. Quelles sont les dimensions? Parce que la conception, évidemment, c'est pour trouver les différentes dimensions à donner et aux différentes couches de la route.
Donc le problème commence au niveau de la conception.
Au niveau de la conception. Et la conception, l'un des éléments clés de la conception pour le dimensionnement, c'est le trafic. Si le trafic n'est pas pour une route en exploitation, évidemment, pour une route qui n'est pas encore construite, une route neuve, on peut faire une projection de trafic. Mais pour une route en exploitation, on doit savoir quel est le trafic le plus élevé pendant le moment où la route est utilisée au maximum possible. Alors, est-ce que cette route-là est à mesure de fournir les dimensions qui ont été données à la route sont à mesure de supporter d'une manière correcte le trafic, tout en transmettant évidemment les charges qu'il y a sur ces différentes couches d'une manière correcte sur l'assiette de la route ou sur la première couche qui est la plateforme de la route.
Donc, mais certains disent que la conception peut être bien faite, mais le problème aussi c'est l'enveloppe qui est mise à la disposition de l'entreprise pour exécuter les travaux.
Là, je vais remonter sur la planification et la programmation. il peut y avoir aussi la cause des dégradations, peut-être aussi celle que tu viens d'évoquer, je ne l'ai pas évoquée, j'allais souligner ça en dernière minute. Sur au niveau de la programmation et de la planification, on dit par exemple à l'établissement public qui est responsable de cette route-là que sur cette route, nous n'avons que 400 000 dollars, par exemple. Alors qu'en réalité, ce montant ne peut pas remplir correctement l'ensemble de l'ouvrage, commençant d'abord par la chaussée et les ouvrages d'assainissement. Nous voyons dans ces pays beaucoup de routes qui n'ont pas d'ouvrage d'assainissement. Comment pouvait concevoir une route sans ouvrage d'assainissement? Et généralement, la réponse qu'on donne, c'est quoi? L'enveloppe n'était pas consistante pour construire les ouvrages d'assainissement. Mais si vous n'évacuez pas correctement l'eau qui arrive sur la route, ça veut dire que vous prenez le risque de la dégrader rapidement. Parce que l'eau peut dégrader très rapidement une route, même qui a été construite en respectant les standards les plus exigeants. Cette route peut se dégrader très rapidement, tout simplement parce que au niveau de la conception, on n'a pas prévu les ouvrages d'assainissement. Donc la conception, c'est la première étape et l'étape fondamentale pour décider de la suite. Alors, si cette étape-là est terminée, maintenant vient l'étape de la mise en œuvre ou de l'exécution du projet. Et il y a différents contrôles qui doivent être menés pendant la mise en œuvre. C'est pourquoi vous voyez sur beaucoup de chantiers routiers, il y a ce qu'on appelle la mission de contrôle et surveillance. Dans cette mission de contrôle et surveillance, il y a des essais, il y a des vérifications qui doivent être faites pour voir si les matériaux qui sont mis en œuvre respectent les prescriptions techniques qui ont été élaborées et que la mise en œuvre elle-même est faite conformément aux exigences techniques. Même les différents équipements et les différents appareils qu'on utilise doivent être aussi contrôlés.
Quand il y a des travaux quelque part, on vient installer les chantiers, tout le matériel est installé, même des bureaux là-bas pour tout gérer sur place.
Oui, non, je parle beaucoup plus de matériel qu'on utilise, par exemple, tous les différents équipements topographiques qu'on utilise pour prélever les mesures. Et aussi, vous avez par exemple les centrales enrobées. Aujourd'hui, nous avons les centrales enrobées qui sont totalement, qui dépendent totalement d'une programmation par ordinateur. Si cette centrale enrobée n'a pas été certifiée pour vérifier si les proportions que les différents mélanges qu'on utilise sont respectés, vous pouvez avoir un couac à ce niveau-là aussi, au niveau de l'exécution. Et si le personnel qui est commis au contrôle n'est pas aussi un personnel compétent, il peut y avoir un problème aussi. Donc, c'est tellement complexe que dès qu'il y a une route qui se dégrade, dire rapidement que c'est ça la cause n'est pas évident.
Mais prenons les routes des déserts agricoles dans les villages à travers le pays. On voit souvent des images, mais c'est déplorable. Vous voyez un véhicule qui est dans la boue, ne sait pas rouler et c'est compliqué.
J'en ai plus
les
moi-même.
Gens font des gymnastiques incroyables pour circuler.
Alors, dans ce cas-là, il faut faire la différenciation entre les routes des déserts agricoles, qui sont des routes non revêtues, et des routes urbaines, comme la voirie que nous avons ici, qui sont des routes revêtues. Évidemment, le problème des routes des déserts agricoles sont un peu différents des problèmes des routes asphaltées. Parce que les routes des déserts agricoles, la dernière couche, la couche de roulement, n'est pas une couche, c'est une couche en terre battue, qui est compactée. Alors, ces routes peuvent se dégrader en cas où il y a des pluies extrêmes. Quand il y a abondance de pluie, la pluviométrie est très élevée, et ça c'est le cas de presque toute la République du Congo, et que pendant qu'il y a de pluie, pendant la pluie ou juste après la pluie, si le véhicule s'hasarde d'utiliser ces routes-là, les routes sont dégradées rapidement.
Et les véhicules s'embourbent.
Les véhicules s'embourbent. C'est pourquoi dans certaines routes, je ne crois pas que cela soit le cas dans toutes nos routes non revêtues, il y a ce qu'on appelle des barrières de pluie. Pour empêcher que le véhicule emprunte ces routes juste après la pluie, pour donner le temps au lot de ruisseler, au lot de s'infiltrer, pour que pendant le passage des véhicules, les déformations ne soient pas très élevées.
Donc, ingénieur, un instant, on va accueillir les auditeurs qui sont déjà là. Melchior est à Arou, Glody depuis Diofa, Serge Kalobia à Kindou. Melchior, bonjour.
Oui, bonjour. La radio Capi, la radio de l'antenne.
Quelle est votre question, Melchior?
Vraiment, nous félicitons d'abord notre technicien pour établir l'onde de la radio Capi sur l'étendue du territoire d'Arou, parce qu'il y a des semaines, on n'a pas eu vraiment cette onde-là. Alors, il y a peut-être une préoccupation concernant notre thématique du jour. Nous avons, depuis que je suis né à Arou, il n'y a pas une route à Arou dans notre territoire. Effectivement, par rapport à notre voisin, peut-être à Lugana, nous avons une frontière avec Lugana. Ils ont fait leur, ils ont arrangé leur route proprement. Quand nous voyons la société Kibal Gold Mine qui a commencé à rétablir la route de Arou jusqu'à Durban, nous voyons ici il y a quand même un certain changement. Nous devons vraiment peut-être encourager la société afin qu'il puisse à la fin nous rétablir une route confortable ou quoi. Alors, notre préoccupation est celle ici. Je ne sais pas si l'invité peut nous dire que la route qui prend de Arou jusqu'à quelle la société qui balmaine est en train d'arranger entre ces jours ne pourrait pas être vraiment bâtie conformément selon leur loi d'artiste ou quoi. Merci d'avoir
bien, merci. Glody, vous êtes à Idiofa, bonjour.
Oui, bonjour messieurs les journalistes, bonjour à l'invité, bonjour à tous les auditeurs de la Radio Capi.
Bien, quelle est votre question, je veux dire?
Oui, merci pour la parole accordée. Moi, j'aimerais poser la question à messieurs l'invité. Si nous rentrons dans la belle époque, à l'époque de Mobutu, monsieur le président construisait des routes qui duraient. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui nos ingénieurs congolais qui construisent des routes dans leur pays propre, mais ces routes-là ne durent pas? Si l'invité peut nous expliquer, c'est dit à quoi? Parce qu'on n'arrive pas à comprendre. Si on donne aux expatriés, oh non, ils vont bouffer de l'argent, donnons ça à nos propres enfants qui vont faire ces travaux. Mais quand il fait ces travaux-là n'avancent pas. Deux ans, après trois ans, la route se détériore, on rentre encore au même problème. Je ne sais pas si l'invité peut nous donner, c'est dit à quoi. C'est juste une petite question que j'ai voulu poser.
Bien, merci. Serge Kalobia, vous êtes à Kindu, bonjour.
Bonjour à Radio Capi, bonjour à l'invité et à tous les auditeurs.
Quelle est votre question, Serge?
Oui, je commencerai d'abord par une petite contribution, parce que vous savez que non, pour nous, pour lutter contre cette dégradation rapide de la route, vous savez que dans la République démocratique du Congo, il nous a fallu autant d'années pour qu'on ait commencé maintenant à avoir ces infrastructures-là. Maintenant, pourquoi nous pouvons les voir être détruites comme ça facilement et que nous voyons? C'est ça un peu la question que je voulais poser aux gens qui nous écoutent. Maintenant, ce que je pourrais d'abord proposer en premier, c'est quoi? Il faut qu'il y ait la création d'une structure s'occupant de la maintenance, la réhabilitation et de la surveillance de nos infrastructures, là, une fois être réalisées. Il faut que l'État...
Je pense que le FONER existe déjà, le Fonds d'entretien de route.
Oui, le FONER existe, mais de nom. Je vous dis, le FONER existe de nom parce que le FONER n'est pas visible. Par exemple, chez nous ici, dans la ville de Kindu, certes, les noms existent, mais l'entretien de la route n'est pas respecté par le FONER. Le FONER ne respecte pas ses engagements s'ils ont pris ces engagements-là. Je n'accuse personne, mais je vous dis, chez nous, le FONER existe par les noms, mais je n'ai jamais vu, depuis que nous avons eu ces infrastructures, je n'ai jamais vu le FONER faire n'importe quoi, même pas surveillance, même pas la réhabilitation. Je n'ai jamais vu, si nos infrastructures de base, je parle de la route que nous avons ici chez nous à Kindu, par exemple.
D'accord.
Ce que je voudrais poser à notre invité, la question, c'est quoi? Si notre invité était aujourd'hui conseiller du président de la République chargé des infrastructures, quel est le conseil qu'il pouvait donner au président de la République? Parce que nous voyons chez nous ici, il n'y a qu'une seule entreprise qui nous construit des routes, par exemple chez nous ici en République démocratique du Congo. Bah, chez nous ici au Maniema, il n'y a que les Chinois. Est-ce que, c'est la question que je voulais parler, est-ce qu'entre les Indiens, Japonais, Américains, Français, Italiens, lesquels parmi ces pays-là peuvent faire ou faire des histoires un peu durables? Parce que nous devons nous dire la vérité en face, parce qu'avec les histoires des Chinois ici chez nous, par exemple, il y a une victimage. Mon frère, quand il plaît, les goudrons là commencent un peu à se détériorer, vous commencez automatiquement à avoir des plaques d'eau en cours de route. Et quelque chose qu'ils ont fait pendant des mois, trois mois, ça commence à se détériorer. À l'époque où quand on avait les premiers ministres, ils pouvaient venir, on pouvait les appeler pour encore repasser là-bas, imaginez-vous. Mais si on atteignait au moins 5 ans, 6 ans, est-ce que nous allons rester avec quoi? Parce que ces gens-là, quand ils travaillent, quand ils viennent faire ces travaux-là, ils ne font pas en bonne volonté, mais c'est l'argent des contribuables congolais, c'est nos minéraux qui souffrent. Voilà, c'est la question que je voulais poser à
merci, Serge.
Parmi ces pays,
merci, Serge.
Qui peuvent avoir une main d'œuvre
un peu. Une expertise, d'accord. Benjamin nous appelle de Kananga. Bonjour.
Bonjour, monsieur Jody Daniel Kachama. Bonjour à l'invité, bonjour à tous les auditeurs de la Radio Kati.
Bien, nous parlons de la dégradation rapide des infrastructures, notamment des routes. Qu'est-ce que vous avez à nous dire à ce sujet?
Oui, merci beaucoup, monsieur Jody. Moi, je commence par dire que l'enveloppe qui est allouée chaque mois, chaque année à la réhabilitation de certaines infrastructures dans ce pays ressort dans la contribution du peuple congolais. Ça nous fait très mal au cœur de constater que souvent, cette grosse enveloppe-là sort pour exercer certains travaux au détriment même du nous peuple congolais parce que le social à la République démocratique du Congo reste à déplorer, mais c'est jeudi. Je pense que la responsabilité, elle est vraiment partagée. Pourquoi? Parce que, vous voyez, même nous qui bénéficions de ces travaux-là, vous voyez par exemple ici au Conseil central, nous sommes pendant la période de l'exécution du projet Chilejelou. Vous voyez que les caniveaux-là qui sont construits, avant même qu'ils ne soient achevés, le week-end-là, comme il n'y a pas assez de travaux qui sont faits, vous allez voir, nous, la population, nous balayons nos maisons, nous balayons nos parcelles, nous faisons les immondices, nous allons rejeter dans ces cas de construction. Donc, monsieur, je dis, vous comprenez que d'abord, la mentalité de nos peuples congolais, vraiment, moi, je pense que l'État, d'abord, va créer certaines cellules de sensibilisation pour que peut-être qu'on va rattraper une certaine partie de la population pour changer la mentalité. Parce que nous, les Congolais, nous ne voulons pas protéger les vies qui sont construites par l'État pour notre bonheur. Et quand vous voyez, par exemple, ici, au centre ville, vous allez voir certains taximens, quand il est en plein goudron, en train de conduire sa moto, il va faire descendre ouais, le pied de sa moto, là, et ça va cracher sur les goudrons, et ça fait d'autres dégâts. Où est-ce que nous, la population, nous faisons? Donc, c'est vraiment un comportement à déplorer. Et aussi, l'État doit être sérieux dans ce qu'il fait. L'État ne doit pas attendre qu'une route soit dégradée en pour tout, et qu'il commence maintenant sur les biens, non, il faut 10 millions, 1 milliard ou autant de non. Quand peut-être ça peut tomber, il y a déjà un truc de non, peut-être que ce pour nous ici va être attaqué. Il faut déjà attaquer le plan en amont. Peut-être qu'au lieu d'attendre de gérer les conséquences.
Bien, là, merci. À ce niveau du débat. D'accord, merci Benjamin de Kananga. Ingénieur Michel Oyombo.
Merci beaucoup. En tout cas, monsieur Jody, les interventions des uns comme des autres sont d'une facture très élevée. Et en ce qui concerne notre ami de Haru, je ne sais plus encore son nom, notre ami de Haru qui a parlé du territoire d'Haru, qui n'a même pas une route, Melchior. Mais ça soulève un problème sérieux, monsieur Jody. Il y a ce que nous appelons un problème d'une répartition déséquilibrée des routes sur l'ensemble du territoire national. Il y a des territoires dans ce pays qui n'ont aucun kilomètre de route asphaltée, pour ne parler que des routes asphaltées. Il y a des kilomètres qui ont des centaines, et il y a pardon, des territoires qui ont des centaines de kilomètres de routes asphaltées. C'est quelque part, il y a un déséquilibre. Il va falloir qu'il y ait un programme du gouvernement qui va essayer de régler cette histoire, ce problème de répartition déséquilibrée des routes, de manière à donner à d'autres territoires l'opportunité de se développer aussi. Ça, c'est un problème très crucial. Si vous prenez certains territoires de l'ancienne province de Katanga, par exemple, vous trouverez des territoires qui ont 30, 40 km de route asphaltée. Mais si vous allez dans d'autres territoires de l'Équateur, l'ancienne province de l'Équateur, ou dans d'autres territoires du Kasaï, par exemple, vous allez vous retrouver avec des territoires qui n'ont aucun mètre de route asphaltée.
Rien du tout.
Rien du tout. Même pas un seul mètre de route asphaltée. Pour ne parler que de route asphaltée. Donc, là, il va falloir qu'au niveau du gouvernement, les intelligences puissent se mettre d'accord pour essayer de lancer un programme spécial pour que certains territoires puissent bénéficier aussi de certains kilomètres de route. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, il n'y a pas une nation au monde aujourd'hui qui a... la technologie, elle est universelle aujourd'hui. Il n'y a pas une nation au monde qui est la seule à avoir des compétences sur les travaux routiers. toutes les nations du monde, comme la technologie, oui, elle est universelle, que ce soit
les Japonais, les Chinois.
Absolument. La technologie, elle est universelle. Ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est au niveau même qu'on élabore ce projet, au niveau qu'on conçoit, au niveau qu'on l'exécute, qu'on mette un mécanisme sérieux de contrôle et que des solutions qui ont été préconisées soient des meilleures solutions possibles. Et qu'au niveau de l'exploitation, qu'il y ait un plan d'entretien régulier pour éviter que la route se dégrade rapidement. Ça, au moins, on peut le faire. Et il y a une question qui m'a été posée si j'étais conseiller du chef de l'État.
Qu'est-ce que vous allez lui,
je lui dirai tout
prodiguer
suite,
comme conseiller?
Tout de suite, je lui dirai qu'il faut absolument convoquer en toute urgence une table ronde sur la qualité des infrastructures. Pour que les experts de tous
mais
les
il y a des structures qui sont chargées de contrôler la qualité des infrastructures.
Une table ronde pour avoir l'avantage d'associer tous les différents acteurs. Les acteurs qui font des recherches sur la route, je parle du monde universitaire, les acteurs de la société civile, les acteurs des organisations professionnelles comme nous, et les différents autres acteurs qui sont des établissements publics de l'État qui s'occupent des routes. Donc, ce phénomène est en train de prendre de l'ampleur, mais c'est aujourd'hui, une route, on ne la conçoit pas pour une année, pour des ans. Quand elle est
quelle
asphaltée,
est la durée de vie d'une route?
15 ans, quand elle est asphaltée, c'est 15 ans minimum.
15 ans.
15 ans minimum, la route doit tenir, évidemment si elle est bien entretenue. Parce que si l'entretien ne suit pas, ça peut se dégrader très rapidement. Mais si la route a été bien étudiée, et la mise en œuvre a été très bonne, et qu'au niveau de l'exploitation, on assure un entretien régulier, la route peut durer 15 ans pour les routes asphaltées. Mais pour les routes non revêtues, qui sont les routes des déserts agricoles, c'est une année, deux ans par exemple. Et là aussi, il faut que le même mécanisme soit suivi. Donc, il est anormal que des millions soient engloutis sur des projets qui ne durent qu'une année, deux ans. C'est très anormal. Donc, c'est une question qui doit concerner au plus haut niveau, commençant par le chef de l'État, le ministère du tutelle, pour qu'une table ronde soit convoquée.
Quelqu'un
très rapidement
a posé la question de savoir à l'époque des Mobutu, les routes duraient. Mais pourquoi aujourd'hui, avec nos ingénieurs, aujourd'hui, la durée de vie des routes n'est pas très très longue?
Je ne vais pas faire... je ne sais pas si je peux faire un diagnostic rapidement sur un plateau de la télévision, mais je lui fais remarquer, un plateau de la radio, mais je lui fais remarquer très rapidement qu'à l'époque de Mobutu, nous n'avions pas les trafics que nous avons aujourd'hui. Les trafics qui assurent nos routes aujourd'hui n'étaient pas les mêmes trafics à l'époque de Mobutu. C'est que, à cette époque-là, si des horaires pouvaient être, faites pendant l'exécution, pendant la conception, les dégâts ne pouvaient pas se sentir très rapidement. Mais aujourd'hui, dans la ville de Kinshasa, par exemple, vous avez un volume de trafic qui est très élevé. Or, le trafic, c'est un élément majeur sur les dimensionnements de route et sur toutes les conséquences qui peuvent suivre par après. Donc, nous avons cet élément qui est là. Mais loin de là, il y a moyen maintenant d'essayer de mettre un mécanisme qualité. Et sans nous, nous pouvons aider le gouvernement. Quel est le plan qualité que l'on peut adopter pour les travaux routiers? Les plans qualité lors de l'élaboration des projets de route, les plans qualité lors de la mise en œuvre des projets routiers, les plans qualité lors de l'exploitation. Et nous allons voir...
Donc cela veut dire que ceux qui assurent, qui sont là pour la qualité ne méritent pas d'être là?
Je n'ai pas dit ça, mais je suis en train de faire voir qu'il faut qu'il y ait un plan qualité qui soit mis en œuvre et qui soit respecté. J'en reviens pour...
Un instant, on va accueillir l'ingénieur Kabangu de Kinshasa. Bonjour.
Oui, bonjour, monsieur Jody, bonjour à l'invité. Je suis ingénieur de métropographe, Paulin Kabangu, depuis la ville de Kinshasa.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire, ingénieur Kabangu?
Oui, premièrement, je félicite le président pour tout ce qu'il a été dit. C'est vraiment encouragé. Mais je voulais faire une mise au point concernant toutes les aspects. Nous avons mis à ce que il y a souvent différence lorsque on est en train de faire les études du bureau, donc l'étude de tracé, tout qu'on sort, tout la cité. Mais je voulais aussi dire que non, les études sont faites à base de différentes routes qu'on est en train de vouloir faire. Vous ne pouvez pas me dire qu'une route, quelque qui relie Kinshasa avec Matad, une route qui a des transactions, qui fait des transactions très élevées. Mais cette route-là, nous pouvons pas se faire avec un chaussée souple. Si on fait ça avec un chaussée souple ou un chaussée non revêtu, la conséquence n'est que ça fait un mois, deux mois, la route n'est pas à bon état. C'est-à-dire, on fait voir des tronçons qu'on fait ne plus que faire des tronçons rigides. Si on fait ne plus que des tronçons rigides, cela permettra qu'on puisse avoir de très bonnes routes avec des personnels qualifiés qui vont exécuter le travail. Et puis, notre gouvernement fait confiance beaucoup aux étrangers. Vous pouvez comprendre qu'une entreprise chinoise qui n'a même pas des ingénieurs qualifiés, on vient avec des ouvriers qui sont des prisonniers là-bas en Chine, ils viennent ici, ils se font comme des ingénieurs. Eux, ils n'ont même pas fait des études d'ingénierie, ils n'ont rien fait. Et puis, c'est à plus de cela. Le gouvernement congolais a des entreprises, a des sociétés qui s'occupent des travaux tels que l'Office des routes, que l'OVD, ainsi de suite. Mais si vous partez dans ces entreprises-là, vous allez constater qu'il y a tellement une méfiance exagérée. Vous pouvez comprendre que moi, j'étais à Xangani, j'étais à Durba, j'ai suivi le guitare de Wataki, de Haru qui est en train de dire qu'il n'y a pas une route. Exactement, il n'y a pas une route là-bas. La seule qui va aller en train d'utiliser des personnes non qualifiées. Quelqu'un qui n'est pas ingénieur, il a fait les écoles de formation, peut-être de IQP, peut-être une sponsor à Isuro. Il peut être à Rungu, il vient là-bas sur terrain, celui qui est le chef de chantier. Il n'a même pas suivi les cours de route. Il n'a même pas suivi les cours des ouvrages d'art. Il n'a rien suivi. Qu'est-ce qu'il veut faire comme. Il va donner comme un résultat abordable. Et c'est la conséquence, mais que la RDC fait 100% de route. Si on peut dire la vérité, M. Jedi, vous pouvez avoir une fils que si c'est beaucoup, c'est 10%. Nous avons que 10% de route sur l'ensemble des routes nationaux qui composent la RDC. Et puis, pour clore, je peux dire que. Le gouvernement congolais doit ne plus que prendre au sérieux les problèmes des routes. S'il n'y a pas de route en RDC, vous allez constater que tout est bloqué, même si le plan économique est bloqué, même si le plan social est bloqué. Donc rien ne va marcher. Conséquence aujourd'hui, même activité, ça vous constate qu'il y a les embouteillages. Tous les embouteillages, c'est pourquoi? Parce que nous n'avons pas de route. Nous avons rien. Les routes secondaires, il n'y en a pas. Les routes principales sont toutes. Il y a des maladies des routes. Vous allez constater qu'il y a partout, il y a des nez de poules. Les ouvrages d'assainissement, ne parlons pas. Donc, il n'y a même pas de tirage de caniveau, tout consort. Qu'est-ce qu'on peut faire?
Merci, ingénieur. Oui. Ingénieur Kabangu de Kinshasa. Safari, vous êtes à Igabarrière. Bonjour.
Bonjour à vous et bonjour à monsieur l'invité.
Quelle est votre question rapidement?
Oui, quant à ce sujet, en tout cas, je vois que le sujet est très important, d'autant plus que peut-être que ça va changer les autorités. Si vous voyez bien sur l'RN27 ici chez nous, la route n'existe même pas. Quelqu'un qui sort de Kenya, il dit que lui, il quitte Kenya, il arrive dans soit deux jours à Fatak. Alors, depuis Fatak, il fait un mois jusqu'à Bounia. Donc, les gens regrettent beaucoup.
De Fatak à Bounia, c'est combien de kilomètres?
On peut dire au-delà de 80 kilomètres.
Et vous faites combien de jours?
Déjà, à la période de la pluie, surtout, il faut plus d'un mois pour arriver à Bounia. Soit 3 semaines, vous voyez, donc.
À cause de l'état, de la mauvaise, du mauvais état de la route.
Oui, donc, alors là, je ne sais pas si les autorités ont au moins la honte, parce que quelqu'un qui sort de pays étranger, il voit l'état de la route de la RDC à nos pères à trait avec des mauvais souvenirs de la RDC. Alors, ma question est de savoir est-ce qu'il y a au moins les universités qui forment les cadres, hein, les gens, donc les gens dans les secteurs de construction de la route en RDC carrément. Est-ce qu'il existe certaines universités pareilles?
D'accord, merci. Ingénieur Michel.
Merci beaucoup, M. Jody. Je voudrais revenir un peu sur la préoccupation d'un auditeur qui a parlé de FONER, le Fonds National d'Entretien Routier. Le FONER, c'est un fonds national d'entretien. Il mobilise les fonds pour les entretiens de route. Mais le FONER n'exécute pas les entretiens de route. Le FONER mobilise des fonds et met des fonds à la disposition d'autres des établissements publics qui sont l'OVD et l'Office de route qui s'occupent des entretiens de route. Donc, le FONER ne participe pas à l'entretien de route pour qu'il recherche la pancarte où c'est écrit travaux exécutés par FONER.
Donc, c'est le FONER mobilise l'argent par le péage.
Évidemment, mobilise l'argent pour que cet argent soit mis à la disposition des établissements publics qui sont chargés de construire et de maintenir des routes, qui sont généralement l'Office de route et l'OVD, pour que ces établissements publics exécutent des travaux de maintenance et d'entretien. Malheureusement, là aussi, il y a un cas souligné. Le FONER, qui est un établissement public qui mobilise le fonds pour l'entretien de route, deux fois, utilise ce fonds soit avec la demande, à la demande du gouvernement, pour la construction des nouvelles routes. Alors que ces fonds devaient être orientés vers les entretiens de routes.
Ça s'appelle comme un détournement.
Bon, par rapport à sa mission, c'est contraire à sa mission. Donc, tout l'argent qui est mobilisé par FONER devait généralement être canalisé pour les entretiens routiers, pas pour la construction de nouvelles routes. Et il va falloir peut-être qu'on fasse... parce que qu'est-ce qui se passe? Quand les fonds mobilisés pour l'entretien de routes sont orientés pour la construction de nouvelles routes, les anciennes routes qui ont été construites n'auront plus de fonds pour les entretiens. Conséquence, ces routes-là vont se dégrader très rapidement et même ce qu'on a construit de l'autre côté aussi, et s'il n'y aura toujours pas de fonds pour l'entretien, ces routes vont se dégrader rapidement. Ces établissements publics qui sont l'OVD, l'Office de route, ne peuvent rien faire s'il n'y a pas de fonds mis à leur disposition pour qu'ils fassent l'entretien.
Pour entretenir les routes.
Absolument. Alors,
Quelqu'un a dit que nos routes sont malades. Vous trouvez des nids de poules partout. Dès qu'il y a un trou qui commence, ça prend du temps jusqu'à ce que ça devienne un trou béant. Et ça gêne la circulation.
Mais là, c'est au niveau des structures qui s'occupent des entretiens, de disponibiliser les fonds et d'entretenir. C'est à ce niveau-là qu'il faut qu'il y ait peut-être un peu plus de... Qu'est-ce que je dirais? Qu'on essaie de faire tout pour qu'on ne perde pas le temps. Parce qu'à partir du moment où il est constaté quelque part qu'il y a une dégradation qui est encore faible, si on intervient à temps, on aura dépensé moins d'argent. Mais si on y laisse passer le temps et qu'on va intervenir en dernière minute, on aura dépensé beaucoup plus d'argent. Donc, il faut qu'il y ait une certaine souplesse au niveau de ceux qui s'occupent de mobiliser les fonds et qu'ils mettent ces fonds-là à la disposition des opérateurs de maintien et d'entretien le plus rapidement possible pour nous éviter que les dégradations soient très avancées et que les interventions soient trop coûteuses. Il y a notre ami qui a posé la question s'il y a des universités ici qui forment des cadres.
Oui, mais parce qu'il a constaté que dans ces entreprises qui travaillent sur les routes, les infrastructures, il y a beaucoup plus de personnes non qualifiées.
Non,
d'après lui.
Pas dans toutes les entreprises. Moi, je connais beaucoup d'entreprises où les gens qui travaillent sont qualifiés. Mais le problème, c'est là où j'ai parlé d'un atelier.
Il a parlé même des prisonniers chinois qui débarquent ici pour exécuter les travaux.
C'est là où j'ai parlé d'un atelier sur la qualité. Parce que si un atelier sur la qualité impose la certification du personnel pour que le personnel soit mis à la disposition des travaux routiers, il faut que le personnel soit certifié, on pourra très facilement élaguer de la liste les personnels non qualifiés. Parce que jusque-là, il n'y a aucune certification nationale qui se fait sur ceux qui ont la capacité ou les compétences d'intervenir sur les travaux routiers. Et sous d'autres cieux, c'est bien réglementé comme ça, la route. On ne peut pas aller s'aventurer. Vous ne pouvez pas vous aventurer sur une route si vous n'avez pas reçu une formation conséquente et si vous ne disposez pas des compétences pour exécuter, que ce soit les études ou les travaux. Malheureusement, nous n'avons pas un système de certification qui exclut de la liste tous ceux qui ne sont pas concernés.
Il y a quelqu'un a dit tout à l'heure que quitter par exemple Fatah jusqu'à Bounia, trois semaines en cours des routes à cause du mauvais état de la voie. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce sujet?
Mais quand la route n'existe pas, mais c'est jeudi, qu'est-ce que vous pouvez faire? Les transporteurs routiers sont en train de souffrir. Si à Kinshasa, nous avons encore quelques routes à bon état, généralement le Varis-Urbain, et quelques routes d'intérêt, par exemple, qui relient nos provinces, mais il y a des endroits où la route n'existe pas.
Même les routes nationales.
Absolument, il y a certains tronçons de routes nationales qui sont dans un état de délabrement très avancé. Il va falloir qu'il y ait des interventions. Vous savez, mais c'est aujourd'hui, hormis le point que la route, les réseaux routiers contribuent au développement du pays, mais les réseaux routiers aussi, c'est un facteur de fierté nationale. C'est un facteur d'attractivité nationale. Quand est-ce que moi je prendrai ma voiture de Kinshasa et je vais rouler jusqu'à Mbujimayi par route? Est-ce qu'aujourd'hui on peut
dire qu'il n'y a que 10% du réseau routier qui fonctionne?
Ah ben, moi je pense même que 10% soit trop. Si on dit fonctionner et à bon état, c'est deux choses différentes. Peut-être qu'il y a 10% qui fonctionnent. Mais nous avons quel taux de route? Si vous prenez la route de Kinshasa Kikwite, la route fonctionne. Mais est-ce que la route Kinshasa Kikwite est dans quel état aujourd'hui? Là, il y a des tronçons pour lesquels la route est dans un état très dégradé.
Mais certains disent que si les routes s'abîment trop vite, il y a aussi la corruption. Lorsqu'on lance l'offre, on ouvre le marché, et ça s'est fait de gré à gré, il y a des opérations retour, on vous donne le marché, il faut tout ça, des enveloppes qui doivent rentrer vers ceux qui vous ont donné le marché, et tout ça, vous vous retrouvez avec peu d'argent pour exécuter les travaux, et ça devient compliqué. Vous faites avec les moyens que vous avez entre les mains, et organisez-vous pour justifier.
Vous savez, M. Jodé, la corruption, c'est un mal qui ne peut pas faire avancer aucun pays dans le monde. Et dans ce domaine, il est évident que là où il y a des millions, il y a des possibilités de corruption. Évidemment, sur les projets routiers, il y a des millions qui sont en jeu. Alors, si nous voulons avoir un programme de lutte contre la corruption, voilà les secteurs dans lesquels il faut commencer. C'est un secteur où circulent des millions de dollars. C'est un secteur où la corruption est évidente. Elle est possible, parce qu'il y a des millions d'argent qui circulent. Mais si on y met un mécanisme de contrôle rigoureux, on peut y parvenir. On peut y parvenir. Ou si on y met, par exemple, d'autres mécanismes tels que vous avez, vous, été l'entrepreneur qui avait construit cette route et que la route se dégrade avant la durée, on vous poursuit en justice. Je pense que les mots vont carrément se réduire. Je ne sais pas si on a déjà poursuivi un entrepreneur dans ce pays parce que la route s'est dégradée avant l'État. Je vous assure, si on met un mécanisme pour poursuivre ceux qui exécutent des travaux où la route se dégrade avant la durée de vie, je vous assure, beaucoup de gens vont se retrouver en prison. Et ça, c'est clair.
Oui, ça, c'est clair. Ben, le problème, c'est que le réseau, c'est la corruption, c'est fait en réseau. Alors, quand tout le monde est dedans, c'est fini, on se couvre et puis, ben voilà, ça devient compliqué.
Mais il y a un mécanisme de contrôle qui existe dans le pays. Il faut peut-être actionner les mêmes mécanismes qu'on a actionné dans d'autres secteurs, et le secteur routier pourra être, ou les travaux, ce qui s'est fait dans ce secteur peut s'améliorer.
Alors qu'est-ce qu'on peut retenir pour avoir des routes qui durent longtemps dans notre pays? Vous avez parlé d'abord de tout commence au niveau de la conception. Vous avez parlé de la mise en œuvre, la qualité, le contrôle de la qualité, la planification et la programmation.
Et aussi l'entretien pendant l'exploitation. Parce qu'il y a des routes, même si toutes les étapes précédentes, la programmation, la budgétisation a été très bonne, et l'étape qui suit au niveau de la conception, tout a été très bien fait, au niveau de la mise en œuvre, tout a été très bien fait, et qu'une fois la route est mise en circulation, la route est abandonnée à elle-même, mais c'est jeudi, elle ne prendra pas beaucoup de temps avant de se dégrader. Donc, c'est un mécanisme qui doit être mis en place. C'est un contrat rigoureux qui doit être mis en place. Et il va falloir... Je me rappelle qu'en septembre 2020, nous avons adopté la loi, la norme ISO 37000 pour la lutte contre la corruption. Il va falloir qu'au niveau du ministère des Infrastructures, que cette norme ISO soit rendue obligatoire.
Et c'est quoi la norme ISO?
La norme ISO 37000 sur la lutte contre la corruption. S'il y a un système, s'il y a un secteur dans lequel il faut qu'on y mette toutes les batteries en marche pour lutter contre la corruption, c'est le secteur des infrastructures. Il faut qu'on y mette les moyens. Parce que si on ne lutte pas contre la corruption dans ce secteur, mais je vous assure, les millions qui circulent là-bas vont être partagés. Et les résultats, c'est ce que nous sommes en train de décrire aujourd'hui.
Voilà, quand l'entrepreneur se retrouve avec peu d'argent entre les mains, alors qu'il avait calculé, il me faut autant, l'argent est parti dans la corruption, il est en difficulté.
Mais dans ce cas-là, c'est lui qui doit répondre. Pourquoi il a accepté de se retrouver avec trop peu d'argent entre ses mains? C'est lui qui répondra. S'il y a un mécanisme, s'il y a des poursuites, s'il y a tout un mécanisme pour que tout ce qui se passe très bien, je ne dis pas qu'on va éradiquer le phénomène, mais on peut le réduire. On peut le réduire et améliorer la qualité de nos routes.
Quelqu'un a fustigé tout à l'heure aussi le comportement des usagers, hein, les mentalités Benjamin de Kananga notamment. Et il a fustigé certains comportements, les gens qui jettent les déchets dans les caniveaux, ça crée des inondations et l'eau revient pour détruire la chaussée. Et il a déploré le comportement de certains taximens, motos qui détruisent également la chaussée.
Mais tout ça relève...
Les usagers aussi contribuent à la dégradation rapide.
Il faut qu'il y ait un pouvoir public contraignant. Vous ne pouvez pas vous mettre abîmer une route qui a demandé des millions de dollars pour son investissement et qu'on vous regarde. Il faut qu'il y ait un mécanisme sérieux. En ce qui concerne les immondices, par exemple, là c'est un problème très sérieux. Parce que souvent, les gens le font. Souvent, c'est pendant la pluie que les gens le font. pendant la pluie, ils constatent qu'il n'y a personne. Ils sortent avec un seau rempli d'immondices.
Ils jettent
carrément dans le caniveau. Et nous devons aussi... J'ai toujours dit que nous avons beaucoup de caniveaux à ciel ouvert. Nous devons définir à quels endroits nous pouvons avoir des caniveaux à ciel ouvert et à quels endroits nous devons avoir des caniveaux complètement fermés. Bien sûr, je sais que quand le caniveau est à ciel ouvert, l'entrée de ciel coûte moins cher. Et quand il est complètement fermé, l'entrée de ciel coûte trop cher. Mais par rapport à la mentalité des gens, il y a des endroits où nous devons avoir complètement des caniveaux qui sont totalement fermés avec les dalles de couverture. Mais aussi, il faut payer le coût de l'entrée de ciel, ça c'est clair. Donc, il y a des mécanismes. Il faut qu'on mette sur pied des mécanismes pour avoir une assurance de qualité des infrastructures routières. Et ces mécanismes-là peuvent être mis ensemble par une réunion de tous les différents acteurs du secteur. Tous les acteurs du secteur.
En quelque sorte, les états généraux.
Absolument, une table ronde sur la qualité des infrastructures, que ce soit au niveau des partenaires financiers et techniques du gouvernement. Nous, nous sommes en train de soutenir cela. Nous voulons que sous le haut patronage du chef de l'État, que les états généraux, une table ronde sur la qualité des infrastructures routières soit organisée et que les chemins soient balisés pour que dans les jours à venir, dans les années à venir, nous ayons des routes qui vont durer quand même, atteindre même la moitié de leur durée de vie. Je me rappelle d'une grande table ronde qui a eu lieu au Canada il y a 2-3 ans passés, parce que la ville de Québec avait constaté que la route s'est dégradée à 8 ans, 9 ans. 9 ans.
9 ans.
9 ans
au lieu de 15 ans.
Au lieu de 15 ans. On a dû convoquer tous les experts pour dire, ben voilà, nous sommes désolés, qu'est-ce qu'il faut pour que nous atteignions des routes qui feront 15 ans. Et les experts ont donné leur point de vue au niveau de la ville de Québec. On a essayé de revoir certaines choses et aujourd'hui, ça va mieux qu'avant.
Voilà, donc les états généraux sont vous en appelez, vous appelez l'autorité à l'organisation des états généraux pour surtout par rapport à la qualité des infrastructures,
sur la qualité. Tout ça. Vous savez, monsieur Jody, la qualité, s'il y a des années où la qualité était difficilement mesurable, aujourd'hui, il y a des paramètres qui peuvent nous permettre de mesurer la qualité. Et la qualité doit se mesurer sur chaque phase du projet. La première phase de la conception, est-ce que l'ouvrage tel qu'il a été dimensionné, les ouvrages avec les annexes, parce que vous pouvez bien concevoir la route, concevoir les dimensions de la route, vous pouvez avoir des couacs sur les dimensions des caniveaux, et tout va être complètement bousillé à cause d'une section insuffisante d'un caniveau. Donc, il va falloir qu'il y ait un mécanisme de validation de projet. Le projet qui a été étudié, est-ce qu'il est réellement validé? Et qu'on fasse appel à tous les experts du secteur pour valider les différents projets. Voilà les projets. Nous voulons, par exemple, moderniser telle route, réhabiter telle route. Voilà ce qui a été proposé. Quelles sont les dimensions qui ont été proposées? Quelles sont les solutions qui ont été préconisées? Qu'on les analyse correctement avant la mise en œuvre. Si on fait à ce niveau-là, on aura évité des couacs au niveau de la conception.
Ingénieur Michel, prenons par exemple les sauts des moutons que nous avons aujourd'hui à Kinshasa. Ça peut durer combien d'années, de telles infrastructures?
Bon, les sauts de moutons sont...
La durée de vie de ces genres d'infrastructures...
Ce sont des ouvrages d'art. Ils ne peuvent pas avoir moins de 15-20 ans de durée de vie. Ce sont des ouvrages d'art. Ce sont des ponts. Ce sont des ponts urbains, les sauts de moutons. Ça s'appelle un pont. C'est un pont. C'est un ouvrage d'art.
Un pont, c'est plus de 15 ans.
Ça peut faire plus de 15 ans.
Avant que les fissures ne se présentent.
Avant que la sécurité du public soit mise en danger, ça peut faire 15-20 ans. Mais il va falloir de temps en temps qu'on essaye de surveiller le comportement de ces ouvrages en exploitation. Là, je suis en train de soulever un autre point, la surveillance des ouvrages en exploitation. Un ouvrage qui a été mis en service doit être surveillé. Il y a un mécanisme de surveillance pour qu'on observe jour après jour le comportement de cet ouvrage. Pour qu'on se rassure que l'ouvrage présente encore les conditions de sécurité et de sûreté pour le public. Il faut mettre un mécanisme de surveillance de ces ouvrages.
Voilà, un mécanisme de surveillance des ouvrages. Et quel est le service qui doit le faire? Est-ce qu'il s'agit toujours de l'OVD? L'OVD, c'est l'entretien?
Malheureusement, moi, je ne connais pas un service qui est chargé de faire la maintenance, ou disons, la surveillance des ouvrages. Mais au moins, ces ouvrages-là appartiennent à certains établissements publics. C'est au niveau de ces établissements publics qu'il faut qu'il y ait un mécanisme pour trouver le plan de surveillance de ces ouvrages en exploitation. Et dans le plan de surveillance, Là, il est défini, il y a tout un appareillage commun pour essayer d'évaluer le comportement du pont, pour voir si le pont se comportait très bien, si au moment de passage des véhicules, la flèche qui est observée, parce que chaque fois que le véhicule passe, monsieur Jody, le pont a un comportement. Est-ce que le comportement qu'a le pont au passage du véhicule, est-ce que c'est le comportement qui est tolérable ou le comportement devient inquiétant? Et tous les ouvrages d'envergure dans tout le pays du monde sont surveillés. Ces ouvrages urbains sont des ouvrages très importants. La surveillance de ces ouvrages est une priorité, M. Jody.
Bien. L'ingénieur Michel Ouyumbu, je rappelle que vous êtes président de la Corporation des ingénieurs BTP, de la RDC. Merci d'avoir répondu à notre invitation. À la prochaine.
C'est moi qui vous remercie, M. Jody.